les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'affaire ukrainienne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé ce jeudi n'avoir subi aucun chantage de la part de son homologue américain Donald Trump, suspecté aux États-Unis d'avoir suspendu temporairement l'aide militaire américaine à l'Ukraine pour obtenir que Kiev enquête sur le fils de son rival politique, Joe Biden. Il n'y a eu aucun chantage de ce type, a assuré M. Zelensky lors d'une conférence de presse en référence à un appel téléphonique qui vaut au président Trump d'être sous la menace d'une procédure de destitution initiée par l'opposition démocrate au Congrès des États-Unis à Washington. Sur place, ici aux États-Unis, Joe Biden, candidat à l'investiture démocrate dans la course à la Maison-Blanche, a pour sa part appelé hier, pour la première fois, à lancer une procédure de destitution contre le président Trump dans le cadre de l'affaire ukrainienne. Donald Trump a immédiatement réagi en qualifiant l'ancien vice-président américain de pathétique. Les détails avec Jacques Aristide.
Pour Joe Biden, le président Trump a trahi le pays. Pour protéger notre constitution, notre démocratie, nos principes fondamentaux, dit-il, Donald Trump doit être visé par une procédure de destitution. Longtemps favori dans la course à l'investiture démocrate pour 2020, l'ancien vice-président est désormais à égalité avec sa rivale Elizabeth Warren, d'après les derniers sondages. Donald Trump a réagi sur Twitter. Tellement pathétique de voir Joe Biden l'endormi, qui avait qu'à son fils Hunter et aux dépens du contribuable, a arnaqué au moins deux pays pour en tirer des millions de dollars, demander une procédure de destitution contre moi alors que je n'ai rien fait, écrit-il. Joe Biden est au cœur de l'affaire qui a poussé les démocrates de la Chambre des représentants à ouvrir une enquête en vue d'une éventuelle procédure de destitution. Ils accusent Donald Trump d'avoir exercé des pressions sur son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, pour enquêter sur le démocrate et son fils Hunter Biden, des accusations déjà rejetées par les deux présidents.
Afrique maintenant, élection en Tunisie. La campagne pour le second tour de la présidentielle a repris ce jeudi au lendemain du coup de théâtre de la libération du candidat emprisonné Nabil Karoui, qui dispose désormais de deux jours pour affronter face à face son rival Kais Saied. Nabil Karoui, un homme d'affaires controversé, poursuivi pour blanchiment et fraude fiscale, est sorti dans la soirée d'hier de la prison de la Mornaghia, près de Tunis, où il était en détention depuis fin août à la faveur d'un recours devant la Cour de cassation. Du fait de son incarcération, Kais Saied, un candidat indépendant qui avait fini en tête du premier tour, avait décidé de ne pas faire campagne ces derniers jours par souci d'équité. Par ailleurs, les résultats officiels confirment une victoire du parti islamiste Ennahda aux législatives. Cette formation religieuse sera donc chargée de former le gouvernement tunisien. Une tâche compliquée étant donné le morcellement du Parlement. Le point avec Jean-Roger Bion.
Ennahda a obtenu 52 sièges sur les 217 que compte l'Assemblée. Des vainqueurs de la Tunisie, la formation dirigée par l'homme d'affaires Nabil Karoui, qui comptera 38 députés. Ces chiffres sont conformes au sondage sorti des urnes publiées dimanche dans la foulée du scrutin qui laissait entrevoir un Parlement morcelé. Ennahda reste le principal parti du Parlement, mais au regard de la fragmentation des forces, il lui sera difficile de trouver un partenaire de poids pour former une coalition gouvernementale nécessitant 109 voix. La justice tunisienne a par ailleurs ordonné la libération de Nabil Karoui, incarcéré depuis le 23 août dernier. M. Karoui avait récolté 15,58% des voix au premier tour de la présidentielle derrière le juriste Kais Saied, 18,4%. Il lui reste deux jours pour faire campagne, durant lesquels il est invité à participer à un débat télévisé inédit avec son adversaire vendredi soir.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant. L'otage américain Jeffrey Woodkey, enlevé en octobre 2016 au Niger, est en vie et en bonne santé. C'est ce qu'a assuré le président nigérien Mahamadou Issoufou dans une interview à la chaîne de télévision américaine ABC. Le point avec Lionel Gaïma.
L'information que nous avons, c'est qu'il est en vie et en bonne santé. Et nous allons continuer à tout faire pour créer les conditions de sa libération, affirme le président nigérien dans cette interview réalisée en septembre en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. En juin 2018, le président Mahamadou Issoufou avait déjà déclaré que M. Woodkey ainsi que l'otage allemand Jörg Lang étaient toujours en vie. Woodkey a été enlevé en octobre 2016 à son domicile à Abalak dans la région de Taoua. Un soldat nigérien et un gardien civil ont été tués pendant le kidnapping. Le 4 octobre 2017, 4 soldats américains et 5 militaires nigériens ont été tués par des djihadistes près de Tongo-Tongo, non loin de la frontière avec le Mali. Cette attaque a été revendiquée par le groupe État islamique dans le Grand Sahara. Le Pentagone avait expliqué que le but de l'opération était de capturer un chef djihadiste soupçonné d'être impliqué dans l'enlèvement de Jeffrey Woodkey.
Au Togo, la 8e édition du CIALO, le Salon international de l'agriculture de Lomé, qui se tient du 8 au 14 octobre dans la capitale togolaise, fait la part belle à l'agriculture biologique. À travers des conférences thématiques, notamment sur l'enjeu de l'agriculture bio et les perspectives du marché pour ce type d'agriculture, le CIALO veut encourager les producteurs togolais à opter pour une agriculture éco-responsable. La problématique du bio, un reportage de notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Dans les couloirs du Salon international de l'agriculture de Lomé Cialo, la culture biologique ou le bio est la terminologie la plus utilisée. C'est aussi un argument de vente. Tous les produits, transformés comme non transformés, se réclament bio.
Nous sommes dans la production et de la commercialisation des produits bio. Et tels que le soja, le biscuit, c'est-à-dire bissap, tamarin, papaye, solo et la citronnelle.
Nos fruits sont des purs bio. Tous les fruits qui sont cultivés sur le pic d'Akou sont des bio parce que chez nous, la terre est bien. Donc nous n'avons pas besoin de l'engrais pour faire nos cultures.
Que ce soit au niveau des consommateurs ou des producteurs, il y a un profond amalgame autour du bio et du naturel, dit avoir constaté Agbe Yao, ingénieur agronome.
Les gens pensent que tout produit qui n'a pas été transformé est bio, mais il y a une grande différence entre un produit naturel et un produit bio. Un produit bio a été documenté, certifié par un inspecteur agrémenté. Le produit naturel, tant que ce n'est pas un OGM, c'est naturel. Mais quand vous voulez parler de bio, la certification, document qui atteste que votre produit a respecté les normes bio.
Pour Mana Pawai Aweso, directrice de la ferme agricole Maxime, le bio ne peut être rentable que pour les petites exploitations.
Tout le monde peut faire bio, mais tout le monde ne peut pas faire l'agriculture intensive et avoir un bon rendement. Si tu ne peux pas prendre soin, tu n'auras pas un bon rendement. Avec la superficie que j'ai, je ne peux pas produire bio et pouvoir entretenir. Parce que bio demande d'amener le truc naturellement. Parce que si tu veux faire bio, le travail est plus à la main qu'à la mécanisation. Tu n'as pas la main d'œuvre suffisante pour le faire. Même si tu veux apporter le compost, tu n'auras pas suffisamment pour le faire.
Avant de prétendre à labelliser ces produits bio, il faut d'abord commencer par l'agroécologie, estime d'outils d'Octim. Il est technicien en agroécologie et accompagne les producteurs agricoles dans une démarche écologique plus respectueuse de l'environnement.
L'agriculture écologique, nous disons, c'est une agriculture dans laquelle nous demandons aux producteurs de prendre soin de leur sol. Il faut faire les composts, fabriquer les biopesticides, faire le cordon pierreux, un cordon de cailloux qu'on essaie de faire pour limiter l'érosion. Et il y a les bandes enherbées qu'on fait avec le vétiver. Donc tout ça, là, ça rentre dans les pratiques agroécologiques. Et si le producteur est responsable de tout ce qu'il fait, l'agriculture bio se retrouve dans l'agriculture écologique.
Le commissariat général de ce salon de l'agriculture invite les producteurs à migrer vers la culture biologique dont les débouchés sont immenses et qui permet aux petits producteurs de réduire leurs dépenses liées aux coûts de production afin de dégager plus de bénéfices. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Pour terminer, politique au Bénin, le président béninois Patrice Talon a ouvert à Cotonou ce jeudi un dialogue politique destiné à sortir le pays de la crise qui le secoue depuis les élections législative d'avril. Mais la réunion a commencé en l'absence de plusieurs poids lourds de l'opposition, notamment Sébastien Djavon, le patron de l'Union sociale libérale qui vit en exil en France, et Candide Azanaï, l'ancien ministre de la Défense, leader de la formation Restaurer l'espoir. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.